Le journal de l'économie avec François Geffrier.
L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, il ne faut pas vendre les bijoux de famille. David Layani le dit, premier actionnaire d'Atos, il se positionne pour reprendre la main dans le sauvetage du groupe français. Malgré le risque d'effondrement, les logements menacés par l'érosion trouvent toujours preneur, on va le voir. Et puis le début d'un salon qui contribue à changer le monde. On le voyait il y a encore quelques mois comme un petit pousset qui voulait jouer dans la cour des grands. David Layani, le fondateur de OnePoint, société de services numériques, est monté peu à peu au capital d'Atos jusqu'à en détenir 11%. Atos dont plus personne ne semble vouloir, ni Airbus, ni Thales, ni Daniel Kretinsky. Alors David Layani se rêve en sauveur de l'entreprise, Éric Mauban.
Oui, il a effectivement de grandes ambitions pour Atos. Il veut faire de la société l'Airbus du cyber, une plateforme européenne du digital, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Face à la menace chinoise et américaine, il veut faire d'Atos le premier opérateur européen du cloud souverain. Pour y parvenir et rassurer à la fois clients et salariés, David Layani tient à conserver les actifs du groupe. Il est prêt pour cela, avec le soutien du personnel, à recapitaliser la société et à mettre en place un plan stratégique de nature à rassurer les investisseurs. Il va demander un effort aux actionnaires et aux créanciers afin de pouvoir retrouver d'ici 2 à 3 ans des marges équivalentes à celles de ses concurrents. L'homme d'affaires espère un coup de pouce du ministère de l'économie en mettant en avant les impératifs de souveraineté, rappelant qu'Atos est présent dans le nucléaire, l'énergie, la santé et héberge aussi une grande partie des données des sociétés du CAC 40.
Éric Mauban en direct, on en parlait dans le journal de 6h30. Emmanuel Macron se rend cette semaine au Brésil et d'abord en Guyane, aujourd'hui et demain. Le président va échanger avec les élus sur la lutte contre l'orpaillage clandestin et la situation économique locale qui est toujours extrêmement contrastée. Un rappel, David Laurette, responsable du suivi économique à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guyane.
La population croît et du coup engendre des besoins en matière de consommation, en matière d'infrastructure. Le secteur du BTP en ce moment est celui qui tire son épingle du jeu parce qu'il y a de nombreux projets d'infrastructure sur le territoire. Construction de routes, d'établissements scolaires. Il y a d'autres secteurs où c'est plus compliqué, notamment lié à la consommation des ménages. Sur un territoire en plus où la pauvreté est plus forte qu'à l'échelle nationale, 53% des Guyanais vivent en dessous du seuil de pauvreté nationale. Donc les ménages sentent cette inflation importante. Et on voit que ça se répercute sur la consommation en local.
Le président qui va se rendre au centre spatial guyanais à Kourou, d'où est tiré Ariane. C'était Ariane 5 jusqu'à il y a encore quelques mois. On attend Ariane 6, premier tir prévu cet été, l'été prochain, 2024. Il y aura aussi des appels à projets pour des mini-lanceurs qui vont être attribués. Le président va dévoiler les noms de ceux qui vont se partager 400 millions d'euros. On va parler de ce sujet du spatial et d'Ariane 6 avec David Barou tout à l'heure à 7h05 dans son décryptage. La mer gagne du terrain, l'érosion s'accélère et pourtant le marché de l'immobilier sur le littoral résiste et même mieux que ça. Le centre d'études CEREMA, qui dépend du ministère de la Transition écologique, publie cette semaine un rapport sur l'évolution du trait de côte et les risques de submersion marine et notamment sur ses conséquences sur les constructions à court, moyen et long terme. Mais même dans les zones considérées comme les plus à risque, l'attrait pour une maison avec vue sur la mer est plus fort que tout, Zoé Pallier.
Des maisons construites en flanc de falaise ou à quelques mètres seulement de la digue. D'ici 2050, elles pourraient disparaître, indique Julia Jordan de la direction risque eau et mer du CEREMA.
5200 logements pourraient être concernés. Sur ces 5200 logements, il y a environ 2000 résidences secondaires. Côté Méditerranée, les enjeux sont assez prégnants. La Seine-Maritime, la Corse, les Pyrénées-Atlantiques.
Et pourtant, cela n'effraie pas les acquéreurs.
On a une demande qui est très forte sur des produits le plus proche de l'eau.
Benjamin Mondou gère 10 agences immobilières sur la Côte d'Azur.
On leur dit clairement que voilà, il y a un risque que dans quelques années, leur propriété puisse être touchée par cette érosion, quoi. Bon, ils nous disent, écoutez, Benjamin, on verra bien.
Même en Vendée, où la tempête Xynthia a emporté des centaines de maisons en 2010, le littoral attire toujours. Ceux qui achètent des biens menacés à court et moyen terme connaissent souvent les risques, pointe Eugénie Cazot, géographe à l'université de Brest.
Ça va être d'abord un profil investisseur qui savent qu'en 7, 8 ans, en louant à tel prix tant de mois par an, ils auront rentabilisé leur acquisition. Deuxième type de profil, c'est des pré-retraités ou des retraités qui ne sont pas dans des logiques de transmission patrimoniale derrière et qui vont acheter un bien qui va peut-être disparaître, mais d'ici là, ils savent très bien qu'ils seront soit rentrés en maison de retraite, soit peut-être décédés. C'est un achat pour profiter.
Résultat, dans certaines zones, les prix continuent à augmenter. À La Rochelle, par exemple, on avait une croissance à 2 chiffres depuis le Covid. Ça n'avait aucun sens, confie un agent immobilier. Aujourd'hui, la hausse se stabilise autour de 2%, mais, poursuit-il, c'est à cause des taux d'intérêt, sûrement pas de l'érosion.
Zoé Pallier, effectivement, le marché de l'immobilier qui attend, comme tout le monde, la baisse des taux d'intérêt. Il faut encore que les banques centrales donnent le vrai signal de l'inversion de la courbe, comme on dit de façon très incorrecte en mathématiques. Les marchés financiers, ce matin, c'est le Nikkei, bien sûr, au Japon, à Tokyo, qui baisse d'un peu moins d'1% à 40 534 points. L'euro vaut 1,0817. C'est le pétrole, le baril de Brent est à 85$. Un salon pas comme les autres s'ouvre aujourd'hui à Paris. Change Now, créé en 2017 dans la foulée de l'accord de Paris sur le climat. Bonjour Santiago Lefebvre.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et président de cet événement Change Now. Votre idée, ça a été de réunir les meilleures idées justement côté entreprise pour relever ce défi climatique.
En effet, le constat vient de la COP21 lorsqu'il y avait d'un côté les citoyens et de l'autre côté les politiques qui mettaient ces objectifs pour la transition. Et en même temps, je m'étais dit qu'on n'y arriverait jamais si on n'arrivait pas à engager l'ensemble des acteurs du monde économique, les entreprises et surtout les entrepreneurs qui ont plein de ressources, plein d'idées pour développer les nouveaux modèles. Et par contre, nous avons besoin de tous. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs du monde économique, mais aussi des solutions portées par des ONG, par des grandes universités.
Alors, qui trouve-t-on cette année à Change Now parmi les grands témoins?
Alors, on aura par exemple Laurent Fabius, président de la COP21 et président du Conseil constitutionnel, qui aujourd'hui œuvre beaucoup pour les générations futures. On aura également Vandana Shiva, une grande activiste indienne qui a beaucoup lutté pour la liberté de semences et l'agriculture durable. Et puis après, des acteurs, on va dire, plus grand public aussi, comme Lucie Lucas, l'actrice qui a joué dans Clem, par exemple. Le sportif Kylian Jornet, qui s'engage énormément pour du sport durable. Et puis après, pareil, j'allais dire, on a des hydrologues comme Charlène Descollonges, Emma Aziza. Donc, une grande diversité d'acteurs.
Alors, ça s'appelle Change Now. Qu'est-ce qui a changé depuis 2017 grâce aux solutions sur ce salon?
Beaucoup de choses, quelques exemples très concrets. En 2025, donc l'année prochaine, toutes les nouvelles machines à laver vont avoir un filtre en microfibre plastique. Voilà, ce qu'on sait pas, à chaque fois qu'on fait tourner notre lave-linge, il y a beaucoup de plastique en microfibre qui part dans l'eau puis dans l'océan. Et à partir de 2025, il y a une solution qui va capter ça. Et ça, c'est le fruit d'une rencontre justement entre Brune Poirson, qui était venue à l'événement lorsqu'il était secrétaire d'État, et une solution qui s'appelle Planet Care, et qui aujourd'hui a permis de faire passer une loi sur ces microfibres plastiques. Et puis après, voilà, il y a eu beaucoup d'autres collaborations avec, par exemple, là, on voit de plus en plus ces colis réutilisables comme Ipli. Et on reçoit un colis dans une petite housse qu'on peut replier et renvoyer par la poste. Et ben, ces colis ont trouvé beaucoup de partenaires entreprises lors des dernières éditions. Et puis voilà, et aussi sur des grands projets de reforestation. Là, il y a des avancées majeures dans un projet de grande muraille verte qui vient reforester toute une bande subsaharienne de l'Afrique. Et ça, c'est renforcé grâce à des rencontres faites avec des solutions à Change Now.
Santiago Lefebvre, merci beaucoup. Change Now, c'est donc d'aujourd'hui à mercredi au Grand Palais Éphémère à Paris. Dans 30 secondes, la météo.